12h30, 13h,
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marlène.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous retrouver pour le journal de la mi-journée à la une ce midi, lendemain de manifestations sur les Champs-Élysées et encore de nombreuses traces des violents incidents d'hier entre forces de l'ordre et manifestants. Nous serons sur place. 103 interpellations, 101 personnes placées en garde à vue et des profils de casseurs, vous l'entendrez, très disparates. Dégradation à Paris, dégradation aussi dans le Var cette nuit au Muy, au niveau du péage de l'autoroute A8. L'autre grand titre de l'actualité, les 27 qui actent leur divorce avec le Royaume-Uni, nous serons à Bruxelles et nous verrons avec Yves Bertoncini, président du mouvement européen, si ce divorce est une tragédie ou l'occasion de refonder justement l'Europe. Il est mon invité. La première réaction de Marlène Schiappa ce matin sur Europe 1 au succès du rassemblement contre les violences faites aux femmes, elle comprend le sentiment d'urgence des manifestantes. Le journal des sports est simple décisif cet après-midi pour les tennisman français en finale de la Coupe Davis. Et puis la météo, la pluie qui gagne l'est du pays.
Europe 1.
Le face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre aura duré jusqu'à la nuit tombée hier sur les Champs-Élysées. Barricades incendiées, fumée noire, pavés décelés de la chaussée. Et ce matin, Mathieu Bock, les marques des violences d'hier sont toujours bien présentes, même si la circulation a repris sur l'avenue.
Oui, les barrières de chantier qui avaient servi à dresser des barricades sont entassées sur les trottoirs. Sous une pluie fine, des ouvriers construisent déjà des palissades en bois pour protéger les boutiques dont les vitrines ont volé en éclats. Gaëtan, lui, prend en photo sa grue orange de 54 tonnes qui a brûlé hier. Il ne pourra pas reprendre le travail demain sur son chantier.
Bah, un peu dégoûté. C'est la grue qui m'est bien utile, qui me sert à gagner ma vie. Bah, je trouve ça un peu déplorable parce qu'en fait, moi aussi, je suis mécontent de plein de choses. Parce que là, contrairement à ce qu'on pourrait dire, celle-là, ça va coûter très très cher. Même si on dit, ah, il y a des assurances. Mais les assurances ne prennent pas en charge la totalité de la casse qui a été faite.
Marie fume une cigarette devant la terrasse vide de sa boulangerie. Les manifestants ont jeté les chaises et les tables hier sur les policiers.
Je suis un peu choquée de voir l'état de la terrasse et de voir aucune chaise, table. C'est dommage parce que, en fait, le matin, avec les gilets jaunes, je trouvais que c'était bien. C'était calme, en tout cas. Et les gilets jaunes nous ont quand même aidés, j'avoue. Dans un premier temps, on nous a pris une chaise. Les gilets jaunes sont venus et nous ont ramené une chaise. Mais après, quand ça a commencé à se casser partout, c'était un peu dommage.
Les dégâts sont en cours d'évaluation, mais à quelques mètres de là, avenue de la Grande Armée, les travaux de déblaiement n'ont pas encore commencé.
Mathieu Bock sur les Champs-Élysées pour Europe 1. En finale, ces violents incidents sur les champs ont donné lieu à 103 interpellations, 101 personnes placées en garde à vue et Salomé Legrand, le profil de ces casseurs, est assez disparate.
Ah oui, il y avait d'abord près de 200 militants d'ultra-droite, dont certains profils bien connus des services spécialisés, pour partie venus de province, l'autre moitié de région parisienne. Des membres de l'Action française, du GUD ou encore de Génération identitaire qui ont participé activement aux échauffourées mais qui n'ont pas été spécialement meneurs. Je cite un policier, « Les gilets jaunes se débrouillaient très bien tout seuls. Certains, très déterminés, s'étaient même équipés pour en découdre. D'après nos informations, leur véhémence a surpris les autorités qui ne s'attendaient pas à ce que l'exaspération s'exprime de façon si virulente. Parmi les gardés à vue, beaucoup de gilets jaunes sans appartenance politique revendiquée. Indiqué donc, avec un profil dominant, homme de type européen, âgé de 25 à 40 ans, venu des régions pour la manifestation et à qui l'on reproche essentiellement la participation à un attroupement armé et des jets de projectiles sur les policiers.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1, dégradation à Paris mais aussi en région cette nuit. Dans le Var au Muy où vous vous trouvez Jacques Terrand, c'est un local commercial de la société d'autoroute qui a été incendié. Un endroit Jacques où près d'une centaine de manifestants bloquaient hier soir l'entrée de l'autoroute A8.
Oui Fabienne, et encore une odeur de brûlé ici. C'est la consternation parmi la cinquantaine de gilets jaunes encore présents. Ils dénoncent ce matin la présence de casseurs sur des morceaux de carton. Ils écrivent « Désolé, mais ce n'était pas nous » face à des automobilistes très en colère car l'échangeur saccagé est fermé. Hier soir, tout a dégénéré vers 20h30. Paul y était, il a tout filmé, mais pour lui, les casseurs étaient bien parmi les gilets jaunes.
Je suis dans les flammes, carrément dans les flammes, il n'y a personne. Il n'y a pas une CRS, il y a des guns. Et les casseurs, ils sont là avec moi. Ils brûlent tout, ils cassent tout, j'ai filmé. J'étais à 2 mètres d'eux. Ils ne vont pas dire que c'était des cagoulés, c'est pas vrai, c'était des jeunes cons qui n'aiment pas la police, c'est tout. C'est des gens qui étaient là toute la semaine, mais bon, ils étaient un peu éméchés, puis ils n'aiment pas les flics, voilà, c'est tout. Ils se sont excités, ils ont tout foutu le feu. Et les CRS, ils étaient là, à 200 mètres en dessous, ils les regardaient, ils n'y sont pas allés. On leur a dit, mais pourquoi ils n'allaient pas les déloger? Ah, mais ils nous envoient des cailloux, c'est pas notre rôle.
Et depuis ce matin, plusieurs ouvriers déblayent les lieux sous les ordres du chef d'exploitation de Vinci Autoroute, Didier Hamon.
Donc là, vous avez donc une boutique de télépéage donc, qui a été complètement détruite. Et puis donc toute la partie, les barrières, les chaussées qui ont brûlé et donc qui seront probablement à reprendre en partie.
La Vinci Autoroute va déposer une plainte. L'échangeur du Muy ne devrait pas rouvrir au mieux avant ce soir ou demain. Une personne a été interpellée.
Et Jacques Terrance dans le Var pour Europe 1. Autre intervention cette nuit des forces de l'ordre, cette fois à Béziers. Des gendarmes sont intervenus vers 1h du matin pour déloger une cinquantaine de gilets jaunes qui bloquaient l'accès à l'autoroute A9. Nous sommes avec Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour.
Bonjour.
Ces violences sur les Champs-Élysées, ces postes de péage dégradés cette nuit dans le Var, c'est juste l'œuvre de casseurs ou ça témoigne d'une radicalisation des gilets jaunes ?
Je crois que dans l'immense majorité des cas, il s'agit de l'œuvre de casseurs qui sont venus se greffer sur le mouvement. On savait d'ailleurs que les manifestations d'hier étaient infiniment plus à risque que celles de la semaine passée, comme à chaque fois d'ailleurs, qu'il y a moins de monde dans un mouvement, il y a des éléments radicaux qui viennent plus facilement s'y greffer parce que le rapport de force leur est plus favorable. Il faut aussi signaler quand même que le ministère de l'Intérieur avait pris la sage décision de donner des consignes aux forces de l'ordre d'éviter d'aller à l'affrontement. Les forces de l'ordre travaillent, en tout cas à Paris, mais je pense que c'est pareil partout en France, à flux tendu, le risque terroriste, la mobilisation des gilets jaunes qui s'éternise, les effectifs sont extrêmement sollicités et le ministère de l'Intérieur a voulu éviter les situations où elles pourraient être prises physiquement pour cible par des individus qui, effectivement, venaient pour s'en prendre à des biens matériels, mais aussi mus par une envie d'en découvrir avec les forces de l'ordre. Donc oui, il y a des dégâts matériels, effectivement, un petit peu partout, mais au minimum, on a évité hier les accidents graves, les morts.
Il y a un bilan humain qui aurait pu être, d'après vous, effectivement, beaucoup plus grave sans cette stratégie des forces de l'ordre. Jean-Yves Camus, pour revenir sur la semaine passée et sur ces gilets jaunes, on a vu aussi des députés menacés sur les réseaux sociaux. Ça témoigne de quoi ? Vous disiez, certains veulent renverser les élites.
Vous savez, ça témoigne d'une exacerbation du rejet des élites qu'on a vu dans d'autres pays. Aux États-Unis, il y a eu des quantités d'incidents, c'est beaucoup plus que les incidents d'ailleurs, de cas où un individu s'en prend physiquement à un élu, alors soit parce qu'il déteste les élites en général, soit parce que cet élu particulièrement lui semble responsable de sa situation personnelle, etc. Mais il y a une très grande violence à l'égard des élus dans un certain nombre de pays.
Et pour vous, le rejet est très important actuellement ?
Moi, je trouve que le rejet est considérable. Il est considérable à un point que les élus n'appréhendent que dès lors qu'on vient effectivement devant leur résidence privée et qu'ils se font dénoncer sur les réseaux sociaux. Mais c'était un climat auquel on pouvait s'attendre parce qu'il y a effectivement une très grande exaspération qui tient ces élus en bloc. C'est ça qui est grave, en bloc pour responsables, alors que l'immense majorité d'entre eux proposent des solutions innovantes et font absolument leur travail. Par ailleurs, ils sont, encore une fois, élus, c'est-à-dire dépositaires d'une partie de la souveraineté nationale. Et c'est ça, c'est ce concept-là qui n'est plus compris.
Merci beaucoup Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. À suivre, les 27 viennent donc d'officialiser leur divorce avec le Royaume-Uni. Nous partons à Bruxelles.
Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Il est 12h40, la suite du journal, Fabienne Lemoyle.
Et ça y est, c'est officiel, les Européens ont acté leur divorce avec le Royaume-Uni. On rejoint à Bruxelles notre correspondante Isabelle Horry. Le sommet extraordinaire est en train de se terminer. Ça met un point final à 17 mois de négociations sur le Brexit, le plus souvent dans la douleur. Isabelle, du coup, c'est quoi l'ambiance ?
Eh bien écoutez, c'est une ambiance un peu morose, soyons clairs. Hein, et le brouillard qui enveloppe la capitale de l'Europe depuis ce matin n'arrange rien. C'est triste et tragique de voir un pays quitter l'Union européenne, a lâché le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Emmanuel Macron était un peu plus mesuré quand il a franchi les portes.
Ça n'est ni un jour durant lequel on doit se réjouir, ni un jour de deuil. C'est le choix d'un peuple souverain. C'est un moment, je crois, de dignité que nous devons avoir collectivement, d'unité et de responsabilité. Cela montre que notre Union européenne a une part de fragilité et que, très clairement, elle est toujours perfectible et à améliorer.
Alors la brièveté de ce sommet dominical souligne son côté symbolique, mais c'est aussi une étape très importante. Les 585 pages du divorce sont validées au plus haut niveau. Il y a aussi une déclaration qui dessine les contours de l'après-divorce, de la future relation entre Londres et les Européens. Ça sera la base pour de nouvelles négociations qui commenceront bientôt. Enfin, il y a un texte écrit à 27 pour rappeler leurs priorités pour ces futures discussions. Pour la France, c'est notamment la pêche. Emmanuel Macron a promis en arrivant de protéger les pêcheurs. Mais voilà, pour que ces discussions puissent avoir lieu, il y a un dernier obstacle à franchir. Le Parlement de Westminster doit ratifier le divorce. Ça n'est pas gagné. Vote à la mi-décembre.
Isabelle Horry, depuis Bruxelles, pour Europe 1. Le succès du rassemblement contre les violences faites aux femmes hier à Paris. 12 000 participants qui ont répondu à l'appel de la manifestation hashtag nous toutes pour réclamer qu'on aille encore plus vite. Et ce matin sur Europe 1, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, dit qu'elle a bien entendu les manifestants.
Je partage ce sentiment d'urgence des manifestantes. Quand vous avez des professionnels de la justice, par exemple, qui ne sont pas formés pendant des générations et que vous avez un sexisme qui imprègne toute la société, nous devons lutter contre cette impunité. C'est ce que fait le gouvernement. Les manifestantes nous demandent de faire plus, mieux et encore plus loin. Et je partage cette demande et cette impatience avec elles. Dans mon budget communication, il y a justement plus de 400 000 euros que je n'ai pas utilisés, que je devais dépenser jusqu'à la fin de l'année. Comme quoi, on peut communiquer justement avec moins d'argent. Et j'ai demandé au Premier ministre de reflécher ces 400 000 euros de mon budget communication en subvention en direction des associations. Donc il y a beaucoup d'associations qui vont voir leur subvention doubler cette année par cette redirection.
Marlène Schiappa qui était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
Le journal des sports.
Avec Axel May. Bonjour Axel.
Bonjour.
Dans un quart d'heure, début du quatrième match de la finale de la Coupe Davis entre la France et la Croatie.
La victoire du double tricolore hier a permis aux Français qui avaient perdu les deux premiers simples de revenir en cette finale. Ils ne sont plus menés que 2-1. Et pour continuer à espérer, il faudra remporter le match en simple qui débutera à 13h au stade Pierre Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Corinne Boulou, vous suivrez cette rencontre pour Europe 1 avec Christophe Lamarre. Alors, on sait enfin officiellement qui affrontera le numéro 1 croate, Marin Cilic.
Ce sera Lucas Pouille. Il était prévisible que le capitaine de l'équipe de France opère ce changement, Axel. Yannick Noah n'a pas d'autre choix après la débandade de vendredi dernier en simple que de lancer toutes ses forces en présence dans la bataille. Alors c'est au tour du nordiste, 32e mondial, d'aller affronter sur ses terres le géant croate. L'an passé, de bonnes vibrations et un public en feu lui avaient permis de remporter le point de la victoire en finale face à la Belgique. Si sur le circuit Pouille est en manque de résultats, en Coupe Davis, c'est un autre joueur. Il n'a perdu que 3 matchs sur 10, dont un d'ailleurs face à Cilic à Zadar. C'était lors de la demi-finale 2016. Il a les armes pour bouger le numéro 1 croate qui peut se révéler fébrile dans les instants décisifs. Alors oui, les Français sont en sursis, mais les Croates n'ont pas encore gagné. Ce saladier d'argent reste encore la propriété de Noah et de ses joueurs pour quelques heures encore ou pour l'éternité, Axel.
Merci beaucoup Corinne Boulou. On vous retrouvera toutes les demi-heures avec Christophe Lamarre pour suivre ces simples décisifs. Le tennis tricolore peut encore espérer une victoire. Le rugby français, lui, enchaîne les défaites.
Ouais, après une victoire acquise contre les Argentins il y a une semaine qui mettait fin à une série de 5 défaites consécutives depuis le mois de mars, le 15 de France se devait de finir sa tournée d'automne sur une note positive. Mais face aux Fidji hier soir, les Bleus ont perdu pour la première fois de leur histoire. On rappelle le score, défaite 21-14. Je me permets de citer nos collègues de l'équipe ce matin qui titrent plus nul que nul. Voilà. Les Bleus sont désormais 9e nation mondiale, devancés au classement par les Fidjiens, de très mauvais augure à moins d'un an de la Coupe du Monde.
Football, Monaco qui gagne. C'est comme le 15 de France, cela devient un exploit.
Première victoire depuis le mois d'août pour les anciens champions de France, désormais entraînés effectivement par Thierry Henry. Succès de Monaco acquis hier sur la pelouse de Caen 1-0, suite de la 14e journée de Ligue 1 à partir de 15h avec Montpellier qui reçoit Rennes. Et puis pour terminer, c'était le match que toute l'Argentine attendait, la finale retour de la Copa Libertadores, Ligue des champions version sud-américaine, qui devait opposer hier soir les deux clubs rivaux de Buenos Aires, River Plate et Boca Juniors. Mais le bus des joueurs de Boca a été attaqué par les supporters adverses. Vitre brisée, joueurs légèrement blessés. La finale retour a été reportée à cet après-midi.
Merci beaucoup Axel May. Il nous reste à voir le temps de ce dimanche.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et la pluie gagne du terrain vers l'est du pays, Valérie Darmon.
Absolument, Fabienne, et les averses deviennent bien soutenues de nouveau sur le Languedoc et sur PACA, excepté sur les Alpes-Maritimes, toujours au sec, en tout cas pour le moment. Il va donc pleuvoir sur un bon quart sud-est jusqu'à ce soir aujourd'hui. Pas de changement pour le reste du pays, toujours sous la pluie ou la grisaille, excepté le bec breton et les Landes au sec, sous de belles éclaircies pour les plus chanceux. Et puis la neige se remet aussi à tomber sur l'ensemble des massifs à partir de 1200 mètres, 1000 sur le massif central. Je vous donne quelques valeurs au plus doux de notre après-midi dominical. 5 annoncés à Strasbourg par Météo France, 8 à Paris, 9 à Caen et La Rochelle, 10 à Tarbes et à Lyon, 12 à Carcassonne et à Brest, ainsi que Bordeaux et 16 à Nice.
Merci Valérie Darmon. Les 27 ont donc acté solennellement ce matin à Bruxelles le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Qu'est-ce que cet acte de divorce joue pour l'Europe? On en parle avec mon invité Yves Bertoncini, président du mouvement européen.
Le journal de la mi-journée se poursuit avec vous, Fabienne Lemoyle, et votre invité.
Ambiance plutôt lugubre, nous disait il y a quelques minutes Isabelle Horry à Bruxelles pour acter solennellement le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Une tragédie pour le président de la Commission européenne. Note plus légère de Donald Tusk hier soir, président du Conseil européen, qui invoquait dans un tweet le chanteur de Queen, Freddie Mercury. Les amis resteront les amis jusqu'à la fin. Pour nous éclairer sur cette nouvelle étape du Brexit, je reçois Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Grand expert des questions européennes, président du mouvement européen. Qu'est-ce qui se joue finalement à Bruxelles, au-delà de ces 585 pages qui scellent le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne?
D'abord, on acte le divorce, en effet, qui fait suite au référendum d'il y a 2 ans, ce choix populaire britannique de quitter l'Union européenne. Donc, on définit les conditions dans lesquelles ce divorce va avoir lieu. Il faut solder les comptes, le sort des citoyens,
va devoir payer,
la question sensible de l'Irlande du Nord, les relations avec l'Irlande et le reste du Royaume-Uni. Et puis, il n'y a pas que ce texte de 584 pages, il y a aussi une déclaration politique sur la relation future. Parce qu'au fond, là, ce qui est acté, c'est comment le divorce va être prononcé, si le Parlement britannique le veut bien.
Et la partie n'est
mais
pas gagnée pour
ensuite,
Theresa May.
Ensuite, il va falloir passer de ce mariage, ce qui était une forme de mariage, à une forme de pax d'union civile. Hein.
Et ça, ça s'annonce comment?
C'est encore tout à fait délicat de voir comment ça va se régler. Il y a eu, ceci dit, une déclaration politique d'un peu plus de 20 pages qui définit les grands principes à respecter, avec cette idée que, bien sûr, ils ne seront plus membres, mais il faut qu'ils restent proche de nous, avec des échanges, notamment économiques, les plus fluides possibles. Un grand partenariat en matière de sécurité, parce que c'est un acteur très important de la sécurité collective, le Royaume-Uni. Mais tout ça se décidera au cours des prochaines années.
Alors vous, qui êtes de ceux qui portaient l'idée européenne depuis des années, vous vous dites comme Jean-Claude Juncker que c'est une tragédie, ou comme Emmanuel Macron que ce n'est pas un jour de deuil, qu'il faut s'employer justement à refonder l'Europe?
Oui, mais enfin, le deuil n'exclut pas la renaissance. C'est-à-dire que bien sûr que quand on regarde le monde, très honnêtement, l'idée que l'Union fait la force et que partagent les militants du mouvement européen devrait conduire les Européens à s'unir davantage plutôt qu'à se disloquer. Parce que c'est ça, le Brexit, c'est une amputation, une dislocation.
Et la question se pose, est-ce que d'autres pays pourraient suivre la voie des Anglais?
Alors à mon avis, non. Il y avait une europhobie au Royaume-Uni. Europhobie, c'est détester tellement l'Europe qu'on finit par la quitter. Il y a sur le continent un peu d'europhobie, mais il y a beaucoup d'euroscepticisme. Euroscepticisme, c'est critiquer l'Europe, mais sans vouloir la quitter. Ce qui menace le continent, les 27, c'est plus une crise de colocataires, une crise de copropriétaires, c'est-à-dire que personne ne veut partir, sauf qu'on n'est pas d'accord sur pas mal de choses. Et donc, quand on regarde le monde, c'est ça qui peut donner un sens à notre unité, parce que nous ne sommes plus que 6% de la population mondiale. Il y a la Russie, Trump, le terrorisme islamiste, la Chine, beaucoup de défis qui nous sont lancés. Et donc l'idée qu'il faut les relever ensemble.
Ce départ du Royaume-Uni, est-ce que ça affaiblit justement l'Europe? Vous le disiez, c'est une puissance qui parle aussi au reste du monde, entre autres une puissance nucléaire comme la France.
Oui, c'est une amputation. Alors, si on veut être vraiment optimiste, on peut se dire, oui, mais en même temps, ça gangrène l'Europe. Donc on va couper le bras britannique et on s'en portera mieux. Bon, peut-être, nous verrons. C'est surtout, oui, la perte d'un acteur important, notamment sur des sujets déterminants aujourd'hui en matière de sécurité collective. Alors, on va maintenir un partenariat avec eux. Mais si on regarde les choses à l'échelle du monde, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Mais ceci dit, c'est un choix démocratique. Il faut faire avec et il faut surtout se concentrer, y compris dans la perspective des élections européennes de mai prochain, auxquelles les Britanniques ne participeront pas. Il faut se concentrer sur les défis à relever à 27.
Ça veut dire que c'est irréversible aussi maintenant, ce départ des Anglais? On attend bien sûr le vote du Parlement britannique.
Écoutez, on a vu, c'est assez rare, on a vu des divorces qui conduisaient ensuite à un retour en arrière. Ça peut exister dans la vie quotidienne, je veux dire. Les Britanniques étaient dans une sorte de malaise avec le continent depuis le début, hein, d'ailleurs, depuis leur adhésion. Ils ont même fait un référendum d'appartenance 2 ans après leur accession. C'était quand même assez original. Là, ils décident de partir. Libre à eux, s'ils souhaitaient, dans quelques années, en refaire le chemin inverse. Ce n'est pas probable à court terme, en tout cas.
Vous le disiez, ce qui menace le plus aujourd'hui l'Europe, peut-être pour terminer, Yves Bertoncini, c'est le fait qu'elle n'arrive pas à se parler entre elles, que les pays ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on est trop nombreux ?
Oui, mais enfin, à 15, c'était déjà difficile. On est surtout confronté à des défis très lourds. Il y a eu la crise financière qui a dégénéré en crise de la zone euro, la crise des réfugiés, crise migratoire. Je pense qu'on peut arriver à se parler. On se parle. C'est ça l'apport de l'Union européenne. C'est qu'on a des différends, mais on les règle pacifiquement. Alors, évidemment qu'à 27, c'est très dur de tisser des compromis.
Et on a vu combien la crise des migrants a tendu les relations entre les différents blocs à l'intérieur de l'Union européenne.
Bien sûr, parce que certains considéraient que les demandeurs d'asile étaient des menaces, d'autres des victimes. Mais ceci dit, on a fini par la surmonter. Le flux des demandeurs d'asile est maintenant réduit au minimum. Et ce qui permettra aux Européens d'aller de l'avant, c'est vraiment de regarder par les fenêtres de leur maison commune, de regarder le monde tel qu'il est. J'aurais pu vous citer le changement climatique. Il y a beaucoup de défis, la dérégulation financière, la mondialisation économique quand elle est sauvage, qui, normalement, doivent nous porter à l'unité. Mais faut-il encore des acteurs politiques qui tiennent ce discours ? Alors Emmanuel Macron s'y emploie, Angela Merkel à sa façon. On verra dans les prochains mois comment tout cela va être reçu par les 27 peuples qui resteront dans l'Union.
Merci beaucoup Yves Bertoncini. On voit combien l'enjeu est important aussi de ces élections européennes qui sont en ligne de mire
voilà,
en juin
mai.
Prochain. 26 mai, fin mai prochain.
En France.
Merci beaucoup Yves Bertoncini, président du mouvement européen, de nous avoir éclairé ce midi sur les enjeux de ce divorce qui est donc acté officiellement aujourd'hui à Bruxelles entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Vous le savez, jusqu'à 13h, nous avons les carnets du monde.
Oui, avec Sophie Larmoyer jusqu'à 14h. Mais avant, le rappel des titres, restez avec nous sur Europe 1.